Monsieur Grosgrenou voudrait nous conduire dans la prière. La seconde partie de la première étude, le reste de ce matin, est encore consacrée à une sorte d'introduction. Il s'agit d'évoquer le contexte théologique des choix que l'on fait à propos du baptême et de la scène en théologie des sacrements. Toute question s'éclaire par ses rapports à ce qui l'entoure, et ainsi de suite. Mais je pense qu'on peut dire que la doctrine des sacrements est particulièrement liée à la conception que l'on a de l'Église, que la doctrine des sacrements peut être considérée comme une branche, une dérivation en tout cas, de l'ecclésiologie elle-même. Où que l'on porte les regards, dans les divers secteurs de la chrétienté, on observe une relation étroite entre la conception des sacrements et celle de l'Église elle-même. Telle conception du rôle de l'Église, de sa nature, de sa fonction, se reflète presque inévitablement, par une sorte de logique inexorable, dans le domaine du baptême et de la scène. C'est ce que j'appelle une homologie assez stricte. J'emprunte à la géométrie le concept d'homologie. On peut observer les correspondances en quelque sorte terme à terme. On peut dire que la nature et la fonction de l'Église se concrétisent dans les sacrements. La gamme des positions ecclésiologiques et sacramentologiques que l'on peut élaborer peut s'étendre presque à l'infini. C'est-à-dire qu'on peut raffiner, marquer les nuances, les distinctions les plus menues, on peut toujours subdiviser. Il y a forcément une part d'arbitraire dans la sélection que l'on fait des types que l'on retient pour la description. Il me semble cependant que je peux, avec assez bon droit, distinguer trois types principaux, aussi bien en ce qui concerne l'Église qu'en ce qui concerne la nature et fonction du baptême et de la scène. Il y a trois grands modèles, j'emploie le mot modèle au sens qu'il a dans la philosophie des sciences, un schéma guide qui permet d'intégrer la plupart des connaissances, qui structure en quelque sorte le champ d'une doctrine, d'une théorie quelconque. Il y a trois grands modèles que l'on observe qui se distinguent bien. Alors, bien sûr, à propos de chacun, vous avez des versions diverses. C'est un peu comme pour les modèles automobiles. Mais trois grands modèles que l'on repère assez facilement. Il y a le modèle catholique qui me semble avoir sa version la plus achevée, la plus rigoureuse, celle où l'on voit le plus clair dans le catholicisme romain, car il y a d'autres catholicismes. Le catholicisme est une attitude et une interprétation globale du christianisme qui concerne aussi ce qu'on appelle les orthodoxes orientaux, le groupe des vieux catholiques, pas mal d'églises du Moyen-Orient, une part de l'anglicanisme. Il y a des tendances qu'on peut appeler catholiques en divers endroits. Mais en tout cas, pour nous, Français, il y a un certain nombre de Français ici, c'est sous la forme du catholicisme romain que la tendance catholique nous est familière, qu'il est important que nous ayons quelques connaissances, et je crois qu'il est permis de la considérer de toute façon dans le monde entier comme la forme principale, ne serait-ce qu'au plan numérique, mais des centaines de millions de fidèles. Je crois qu'on est aux environs de 800 millions dans le monde. C'est quand même le bloc le plus important. Il y a un ensemble de ressources intellectuelles, le nombre des facultés des intellectuels qui travaillent la doctrine depuis des siècles et des siècles, c'est quelque chose de faramineux. Ça représente une force. Donc c'est un premier grand bloc avec un modèle ecclésiologique et une conception des sacrements en relation étroite avec ce modèle ecclésiologique. Je l'appelle catholicisme romain, je fais juste cette petite parenthèse en marge. J'ai été assez étonné, lors des conversations auxquelles je participe, au nom de l'Alliance évangélique universelle, avec des représentants du Conseil pontifical pour l'unité chrétienne, parce que certains de nos interlocuteurs ont dit « catholicisme, oui, mais pas romain ». L'Église romaine, c'est l'Église qui est à Rome. J'avais entendu jusqu'alors l'affirmation « catholicisme romain, oui, mais pas latin ». Pas exclusivement latin, puisqu'il y a aussi des églises soumises au pape au Moyen-Orient, par exemple, qui sont des églises de langue grecque ou encore d'autres langues. Mais là, c'était la première fois que j'entendais pas catholicisme romain. Alors j'ai un petit peu épluché mes sources, les documents. Il est vrai que l'appellation dans les textes catholiques est devenue rare, et en particulier depuis le deuxième concile du Vatican. Mais elle est quand même traditionnelle. Elle se trouve en particulier dans la profession de foi du Concile de Trente, alors ce n'est pas rien, et encore dans des textes votés au premier Concile du Vatican. Donc il me semble impossible à un catholique soucieux d'assumer sa tradition de nier que l'appellation a été reçue et utilisée par les plus hautes autorités. Mais je vous signale quand même qu'il y a certains, ça fait partie des luttes de tendance aujourd'hui, qui parmi les représentants assez autorisés du catholicisme, en union avec le pape, renâclent devant l'appellation, la précision romaine. Le deuxième grand modèle, c'est celui qui est issu de la réforme qu'on appelle magistérielle depuis quelque temps. C'est un langage peut-être d'historien professionnel, mais il est utile que vous connaissiez cette façon de parler, c'est-à-dire la réforme luthérienne, zwinglio-calviniste et aussi anglicane, au moins jusqu'à un certain point. La réforme des églises de multitude, si vous préférez. On dit réforme magistérielle pour distinguer de la réforme des anabaptistes, des spiritualistes, voire des sauciniens, c'est-à-dire des libéraux, avant qu'on dise libéraux, pour distinguer donc de cet autre pan de la réforme qui il n'y a pas d'unité d'ailleurs, on dit réforme magistérielle parce qu'elle s'est opérée avec l'aide des magistrats. Dans tous les pays sauf un peut-être où elle a pu s'établir. Donc le mot magistériel n'a pas référence au magistère des docteurs de l'Église, là, quand on dit réforme magistérielle. Là où les églises luthériennes se sont maintenues, c'est là où les princes ont adhéré au luthéranisme et l'ont fait prévaloir. Là où les églises réformées ont pu persister, c'est là aussi où elles ont eu le soutien des autorités, souvent des autorités de villes libres, comme à Strasbourg ou à Zurich, Berne, et bien sûr l'église anglicane. Et le fruit de... c'est très étrange... mais des déboires conjugaux du roi Henri VIII qui a fait le choix de la réformation parce que le pape ne lui permettait pas de renvoyer sa première femme. Dieu écrit droit sur des lignes tordues, comme dit le proverbe portugais, et c'est ainsi que l'église anglicane a été l'église établie en Grande-Bretagne. Ces églises, donc, sont des églises de la réforme dite magistérielle. là aussi diversité, mais je considère, là je me risque un peu davantage, que j'y vais à mes risques et périls, si vous voulez, que lorsque je distingue le catholicisme romain, j'estime que la version réformée calviniste est celle qui nous présente de la manière la plus pure, la plus clairement intégrée, la version de l'ecclésiologie et de la théologie des sacrements dérivée de la réforme magistérielle. Donc le deuxième grand modèle que je retiens, c'est celui de la théologie de Calvin, foncièrement, avec donc connaissance d'une certaine diversité, mais c'est la version que je privilégie. Et puis la troisième grande forme d'ecclésiologie, c'est celle de ce que nous appelons volonté des églises de professants, c'est-à-dire des églises qui exigent, pour la qualité de membres, un engagement personnel, une profession de foi, d'où le mot professant, qui certes réserve un traitement particulier aux enfants des fidèles, aux petits-enfants des fidèles tant qu'ils sont sous la dépendance de leurs parents, mais ne les considère pas comme tels, comme membres de l'Église. C'est là la différence avec le modèle ecclésiologique réformé. Ces églises de professeurs sont assez diverses elles aussi, bien sûr. Certaines d'entre elles n'ont pas une théologie des sacrements très, très clairement formulée, très distincte. Les aléas de l'histoire ont joué à ce propos. Il ne me semble pas que si l'on considère les églises méthodistes, par exemple, dans leur diversité mondiale, on obtienne une doctrine des sacrements très, très claire et originale. Là aussi, je me risque. Je pense que la tradition baptiste nous offre le modèle de théologie des sacrements et d'ecclésiologie simultanément qui représente le mieux ce troisième modèle à la fois ecclésiologique et sacramentologique, le modèle des églises de professants. Je peux arguer d'une part du nombre des théologiens, de ceux qui se sont consacrés à la recherche, et de l'Antiquité, du nombre de siècles pendant lesquels cette doctrine s'est affinée, approfondie, consolidée, peut-être aussi a dégénéré. On ne peut jamais rien exclure, mais je pense qu'il n'y a pas dans le champ des églises de professants, selon considération de leur diversité, l'équivalent de la tradition théologique baptiste, et donc je choisis cette version du modèle comme la version la plus représentative. Donc trois grands modèles ecclésiologiques avec trois théologies du baptême et de la scène correspondantes: catholique romain, réforme magistérielle réformée calviniste et professant baptiste. Je complète peut-être en disant, à propos du troisième modèle, que le modèle baptiste prévaut bien au-delà des frontières des dénominations officiellement étiquetées baptistes. Les églises pentecôtistes, par exemple, ont une ecclésiologie et une théologie des sacrements baptistes, simplement. Et c'est particulièrement marqué comme héritage du côté français, où le pentecôtisme a été, plus qu'en d'autres pays, préparé par le baptisme et a eu, la plupart de ses cadres dans son premier essor, issus du baptisme. Donc le pentecôtisme est en fait inclus. Et il y a beaucoup de petites dénominations avec des noms divers, union évangélique, indépendante en particulier, il y a beaucoup d'indépendants qui sont en fait baptistes quant à la doctrine, quant au modèle ecclésiologique et sacramentologique. on pourrait peut-être dire ils sont baptistiques s'ils ne sont pas baptistes. Et lorsque je parle du modèle baptiste, je parle de cet ensemble et non pas d'une dénomination particulière. Voilà les trois grands modèles. Alors comment se présentent les choses selon ces trois grands modèles? Je commence par le catholicisme romain traditionnel. Alors, encore des explications supplémentaires à cet égard. Depuis une quarantaine d'années maintenant, une trentaine d'années en tout cas, le catholicisme romain connaît une sorte d'explosion de tendances diverses qui vont dans tous les sens, et il n'y a plus guère un seul catholicisme si l'on considère les théologiens. Vous trouvez des positions tout à fait divergentes les unes des autres. Chez des gens qui enseignent, qui sont pourvus de tous les diplômes, qui sont dans des facultés prestigieuses. Donc, il faut savoir de quel catholicisme on parle. Alors, je parle ici du catholicisme romain traditionnel, non pas dans ses formes les plus durcies et caricaturales, ça c'est quand même un fait qui n'est plus que très minoritaire. Il reste une marge de traditionnalistes durs, mais c'est un phénomène qui maintenant est un phénomène de frange. Mais c'est celui du catholicisme traditionnel, disons, ouvert, qui se donne un visage aimable, que l'on trouve dans les documents officiels, les textes de Vatican II, les encycliques pontificales, le catéchisme, qui est bien sûr un document de référence très important. Et si l'on considère les théologiens, celui que je considère comme le meilleur représentant, avocat, le plus attrayant, je le pense hautement sympathique, au point d'en éprouver une tentation, je le confesse, c'est Yves Congar. Yves Congar, que j'ai déjà mentionné, théologien dominicain, grand pionnier de l'écuménisme catholique, le plus biblique peut-être de tous les dogmaticiens du côté catholique, s'est concentré principalement sur des sujets d'ecclésiologie. Ça a été son grand domaine. Il n'a pas laissé une grande théologie systématique embrassant tous les sujets, non, non. Mais une kyrielle d'ouvrages très approfondis, touchant à divers sujets de l'ecclésiologie, avec l'extension du côté écuménique. Congar, qui a été l'un des experts du Concile, le rédacteur principal de nombre des décrets qui ont été votés, Congar me semble être le théologien catholique de référence, si nous choisissons de ne pas chercher la caricature, mais au contraire la version qui mérite le plus de respect dans l'expression de ce catholicisme traditionnel, car il reste encore traditionnel. Il est ouvert, il est progressiste dans le ton, mais c'est toujours quand même la pensée de saint Thomas d'Aquin, telle qu'elle a été reprise et revivifiée au XXe siècle. Il ne s'agit pas des recherches aventureuses de certains courants plus ou moins gauchisants, si on veut employer ce langage, que l'on peut observer depuis la deuxième partie des années 60. Alors pour ce catholicisme romain traditionnel, et il n'est pas le seul aujourd'hui, que ce soit clair, l'Église continue le Christ. Ça, c'est semble-t-il la conception clé. C'est une institution divino-humaine. Certes, l'Église a pour membres les fidèles baptisés, mais traditionnellement, quand on dit l'Église, on pense d'abord à cette grande structure qui est en quelque sorte avant les fidèles, dont elle assume la charge. Je vais en parler dans un instant, qu'elle enfante et puis qu'elle nourrit. C'est une institution, d'abord, Congar dit quelque part, avec un peu d'humour, la plupart des Français disent l'Église comme ils disent le gouvernement ou l'État. C'est comme une grande organisation, et le mot organisation est un petit peu trop moderne. La notion d'institution est encore, qui est plus ancienne, est encore plus adéquate, parce qu'il s'agit de quelque chose que Dieu a fondé, à quoi il a attribué non seulement les lignes de son déploiement, mais aussi les prérogatives, des pouvoirs, des devoirs. C'est ce grand ensemble qui est divino-humain. L'Église ayant été fondée par Dieu a un côté divin, en même temps qu'elle est humaine. Et en cela, elle continue Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est Dieu qui s'est fait homme. Jésus-Christ est Dieu et homme. L'Église est la continuation du Christ, puisqu'elle est son corps. De même que le Père a envoyé le Fils envoie ses apôtres qui sont l'Église, et en particulier cette Église enseignante qui est la structure maternelle qui va enfanter les fidèles. Tout est vu dans l'optique de la continuité, à partir de l'incarnation qui est la cause même de notre salut. Le divin entre dans la chair. Et c'est ce qui continue dans l'Église, l'Église ayant une mission de salut. Le salut qui est le fruit de l'incarnation du Fils est réellement concrétisé par ce prolongement pour chaque génération, pour tous les individus qui se succèdent, qu'est l'Église, avec ses structures comme je viens de parler. L'Église est mère. Maternité de l'Église, c'est un très très grand thème, et elle est mère d'abord parce qu'elle enfante. Les fidèles ont Dieu pour père et l'Église pour mère, en vertu des pouvoirs spirituels que Dieu a conférés à cette institution. Alors comment l'Église remplit-elle cette mission médiatrice ? Prolongeant la médiation du Christ, c'est pas une autre médiation, c'est la médiation du Christ qui se continue en son corps. Comment l'accomplit-elle? En particulier par les sacrements, qui sont les opérations clés qu'elle accomplit, et qui en fait ne sont pas des actions simplement humaines, mais les actes du Christ par l'Église. Bien des encycliques pontificales, par exemple, on peut dire du prêtre, qui est l'Église, lors de la célébration du sacrement, qu'il est un autre Christ. Il est un vice-Christ. C'est le Christ qui œuvre par lui. Et c'est d'ailleurs le sens de la fameuse formule que les sacrements sont valides et efficaces, ex opere operato, c'est-à-dire en vertu de l'œuvre opérée. Ça ne dépend pas des mérites personnels du prêtre, ce peut être un chenapan, mais s'il est un prêtre validement ordonné, c'est le Christ qui agit par lui, et donc c'est en vertu de l'œuvre qui est accomplie, indépendamment des mérites ou des démérites propres de la personne du prêtre, que le sacrement est valide. Dans l'optique du catholicisme traditionnel, c'est une façon d'honorer la souveraineté de la grâce de Dieu et la fidélité à sa promesse que de dire ça ne dépend pas du prêtre, ça dépend simplement du Christ qui agit par lui, donc c'est ex opere operato. C'est là le sens de la formule. Alors les sacrements sont des moyens de grâce causatifs. Ils sont signes, bien sûr, ça c'est reconnu, il y a l'aspect d'image, de symbole. Pendant un temps, les catholiques n'aimaient pas le mot symbole, mais aujourd'hui, ils en raffolent, donc c'est symbolique. Mais il ne s'agit pas de simples signes. Il s'agit de signes-cause. Ils confèrent ce qu'ils signifient. La grâce qui est représentée est effectivement véhiculée et communiquée à ceux qui participent au sacrement.
pour le catholicisme traditionnel, alors il y a des critiques aujourd'hui, hein, de certains de ces courants autres, mais pour le catholicisme traditionnel, c'est cet alliage de la fonction de signe et de la fonction de cause qui est le noyau même de la notion du sacrement. L'Église a reçu en dépôt la grâce, étant donné que c'est une institution divino-humaine, et pour enfanter des âmes pour le royaume de Dieu, elle dispense cette grâce par le canal des sacrements. Les sacrements, donc, sont cause en même temps que signe. Et le Concile de Trente a anathémisé ceux qui ne voudraient pas reconnaître cette fonction de cause et voudraient en rester à celle de signe. Il faut souligner d'emblée que la causalité reste instrumentale. C'est une causalité qui a pour fondement l'œuvre opérée par l'incarnation qui inclut la croix. La source première, c'est la miséricorde de Dieu et la réalisation historique par le Christ. Et l'efficacité des sacrements comme les œuvres de cette institution divino-humaine qu'est l'Église, c'est une efficacité pour la transmission, pour la communication de la grâce obtenue par le Christ. Donc c'est une cause à titre second, et généralement il est précisé à titre d'instrument, c'est l'instrument d'application de communication, causalité donc dite techniquement instrumentale. Alors ce n'est pas de la magie, protestent les catholiques, si jamais on risque un tel terme, en disant que les dispositions humaines ne sont pas mises en jeu pour autant. La magie agirait indépendamment des attitudes de cœur, des dispositions des personnes baptisées ou qui prennent l'Eucharistie. Ce n'est pas du tout le cas dans le dogme catholique. Il y a l'efficacité ex opere operato, indépendamment de la sainteté personnelle du prêtre ou de son contraire, mais ce n'est pas toute l'affaire. Les dispositions du prêtre comptent quand même pour que le sacrement soit valide. Il faut qu'il ait l'intention de faire ce que fait l'Église. Quand même. Donc il y a un aspect, on pourrait dire, de participation subjective du prêtre qui demeure nécessaire à la validité. Alors, il y a des débats pour savoir exactement ce que ça peut impliquer. Mais surtout, les dispositions du fidèle qui reçoit le sacrement, auquel le sacrement est administré, comptent. Il y a l'action du Christ, mais il y a aussi la réception du fidèle. Alors comment est-ce que cela joue? C'est là une subtilité de la position catholique qui est souvent ignorée des protestants et des évangéliques. Et je prends le temps de expliquer un peu. Cela joue en faisant se creuser la distinction entre la grâce elle-même et une sorte de réalité intermédiaire qui n'est pas la grâce, mais qui n'est pas seulement le signe non plus. Et vous allez comprendre tout de suite quand je vais illustrer. La grâce pour le baptême, c'est la purification des péchés. La régénération que le baptême représente et qu'il communique. La grâce pour l'Eucharistie, c'est la communion spirituelle, comme en un seul corps, dans l'Église avec Dieu. C'est ça la grâce. La grâce n'est communiquée à celui qui est baptisé, à celui qui reçoit l'Eucharistie, l'hostie, que s'il n'y a pas d'obstacle en lui. S'il n'y a pas une disposition de cœur qui fasse barrière. Donc ce n'est pas automatique. Il ne faut pas qu'il y ait d'obex, c'est-à-dire obstacle en latin. Si quelqu'un reçoit le baptême mais au fond du cœur n'y croit pas, il n'aura pas la grâce. Ses péchés ne sont pas purifiés. Il ne reçoit pas la grâce que représente l'Eucharistie, s'il ne participe à l'Eucharistie. Quant à la grâce que véhicule le sacrement, il faut non pas la condition positive d'une foi qui saisit la grâce, mais la condition négative qui n'est pas d'obstacle. Pourquoi cette formulation? C'est très simple, à cause du baptême des petits-enfants. Dans le cas du baptême des petits-enfants, ils peuvent dire qu'il n'y a pas d'obstacle. Il n'y a pas de disposition contraire. S'ils demandaient la condition positive de la foi, alors là, ça aurait un problème avec le baptême des petits-enfants. Vous voyez? Mais, pour les adultes en général, l'absence d'obèque signifie la foi. Un certain degré de foi. Alors, les catholiques, qui généralement ne pensent pas en termes de ou bien, mais de degrés divers, diront, mais il y a tous les degrés de foi. Ça peut commencer très faiblement, très timidement, une esquisse d'un mouvement, mais c'est cette disposition qui reçoit la grâce. Cependant, il y a autre chose que la grâce qui communique aussi le sacrement, s'il est valide. C'est pas la grâce, mais c'est quelque chose. Et cela alors est communiqué même s'il y a un obstacle. Dans le cas du baptême, c'est ce qu'on appelle le caractère, comme une empreinte sur la personne. Même s'il y a obstacle, si c'est un adulte qui ne croit pas au fond de lui-même, ou si ensuite des obstacles se dressent chez l'enfant, chez celui qui a été baptisé comme enfant, le caractère demeure. Ça ne sauve pas la personne en cause. Ça ne purifie pas de ses péchés. Mais ça fait de lui une propriété de l'Église. Il appartient à l'Église puisqu'il a reçu ce baptême. Il a le caractère, l'empreinte sur lui. Et cela interdit toute répétition. Si le baptême ne peut pas être répété, c'est parce qu'il a laissé ce caractère, cette empreinte sur la personne. Alors comment concevoir ce caractère? Là encore, grand débat, c'est la thèse. Et lorsque quelqu'un a reçu un baptême hérétique mais valide, parce que c'est normalement la position chez les catholiques, le baptême, comme il était hérétique de la part de celui qui l'a administré, mais de la part de celui qui l'a reçu aussi, il y avait hérésie, n'a pas produit son fruit de grâce. Mais le caractère est quand même là, parce qu'il y avait l'intention de faire ce que fait l'Église. Et c'est quand il rejoint la véritable Église que le potentiel de grâce est libéré. On appelle ça la revivescence du sacrement. Le baptême qu'il a reçu autrefois devient régénérateur et purificateur à partir du moment où l'obstacle est levé. L'obstacle empêche la grâce, mais le caractère est toujours là. Et c'est cela qui interdit toute répétition. Oui, monsieur. Il y a beaucoup de ça, oui, en ce qui concerne le rapport du caractère et de la grâce, cette revivescence correspond à une actualisation, en fait, de ce qui était en puissance lié au caractère. Oui, il est sûr que la scolastique, dont le thomisme est tellement marqué, et le thomisme, c'est la théologie principale du catholicisme traditionnel, a été marquée par l'aristotélisme. Dans le cas de l'Eucharistie, ça qui est très 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 important et intéressant, cette réalité qui n'est pas la grâce et qui est présente même lorsque le fidèle ou la personne oppose un obstacle, c'est la présence réelle du corps et du sang du Christ. La transsubstantiation du pain et du vin, qui cesse d'être du pain et du vin, bien qu'ils en gardent tous les caractères mesurables, extérieurs, etc., mais qui devient, quant à la substance, corps et sang du Christ, ça, ce n'est pas la grâce. C'est cette réalité qui s'opère toujours si le sacrement est valide. C'est pourquoi il y a une mendication du corps du Christ par les impies et qu'ils boivent et mangent un jugement contre eux-mêmes, puisque c'est le vrai corps et le vrai sang du Christ qu'ils mâchent et ingèrent. Enfin, dans le cas des fidèles de toute la période moderne, il n'y a pas de participation à la coupe, au calice, c'est simplement l'hostie. Mais dans lorsqu'il mâche donc le corps du Christ, mais qui contient son sang en tant que corps, ils boivent et mangent un jugement contre eux-mêmes, justement parce qu'il y a chez eux l'obstacle, et c'est le vrai corps du Christ qu'ils prennent dans la bouche. C'est cette contradiction qui est le jugement qu'ils portent contre eux-mêmes, selon les termes d'un Corinthiens 11, d'après la compréhension catholique du sacrement. Vous voyez de quelle façon se composent les éléments de la doctrine catholique. Je vous donne une petite idée par ces quelques explications de la subtilité de la théologie catholique. J'ajoute encore que l'idée qu'une opération corporelle qui a le caractère évident d'un signe, un rite symbolique, est une efficacité spirituelle, lorsqu'il n'y a pas d'obex, qu'il communique une réalité spirituelle, que cette thèse a été jugée très difficile par beaucoup de théologiens catholiques, et pas seulement des dernières décennies, tout au long de l'histoire de la théologie catholique, fin du Moyen-Âge et encore au XIXe siècle, et vous avez des tentatives presque constantes, toujours renaissantes, de trouver une façon de rendre compte de l'efficacité spirituelle de ces gestes corporels, et pratiquement chaque fois, la riposte des thomistes, c'est votre explication supprime la véritable causalité. Or, la causalité est affirmée par le Concile de Trente. Donc, ça ne peut pas être retenu. Mais que ça recommence toujours montre bien qu'il y a une gêne. Et en fait, les explications de saint Thomas d'Aquin même et des thomistes sur la façon dont peut s'opérer une causalité spirituelle, même seulement instrumentale, par un rite corporel, ces explications sont embarrassées. On sent bien que c'est un sujet difficile pour le thomiste lui-même. Il est intéressant pour nous de savoir qu'il y a eu tout un passé de débats théologiques à ce propos. Deuxième grand modèle ecclésiologique et quant au sacrement, celui donc qui reste dans la ligne de Calvin. Je crois que la décision principale que l'on prend lorsque l'on décide de se rallier à ce schéma, c'est la distinction de l'Église visible et de l'Église invisible. Pour l'Église invisible, je pense que les thèses que défendent les réformés sont à peu près les mêmes que celles que défendent les professants, les baptistes et autres. L'Église invisible est constituée de tous les régénérés. C'est la compagnie, l'association, l'union, le corps spirituel de tous les vrais régénérés de tous les temps et de tous les lieux. C'est ça l'Église invisible. Ces régénérés, ce sont les élus. Selon que vous êtes augustinien, comme Luther lui-même et comme Calvin, vous direz que c'est l'élection divine qui précède tout le reste. Si vous êtes arminien, vous direz que Dieu a élu en vue de ce qu'il prévoyait de la réaction de foi, mais de toute façon ce sont les élus. De toute façon, il s'agit du grand corps de tous les élus qui, à un moment donné de leur pèlerinage terrestre, sont régénérés, naissent de nouveau, viennent à la foi, tous ensemble ils constituent l'Église invisible. Et eux seuls constituent cette Église invisible. Mais ce qui est caractéristique du modèle ecclésiologique de Calvin, c'est que se distingue de cette Église invisible une Église visible. Chez les catholiques, vous n'avez pas cette dissociation. Et pas non plus, en tout cas pas avec cette force chez les professants. Mais dans l'Église réformée, vous distinguez très nettement cette Église invisible et l'Église visible qui est d'abord conçue comme une institution. À peu près dans le même sens que ce que, celui que j'ai mis en œuvre lorsque j'ai parlé du catholicisme romain. L'Église visible est une institution qui a un rôle maternel, et Calvin le met en évidence d'emblée lorsqu'il aborde le livre 4 de l'institution chrétienne, avec très peu de textes bibliques d'ailleurs. Il cite Galates 4 sur la Jérusalem céleste, notre mère, mais c'est justement pas l'Église visible, c'est la Jérusalem céleste. C'est une thèse qu'il pose d'emblée, elle est notre mère, non pas tant au sens de l'enfantement, bien qu'il ne l'excluerait pas totalement, mais au sens surtout de l'éducation. C'est l'Église qui nourrit et qui éduque les enfants de Dieu. En un sens, elle les fait naître aussi, mais l'accent doit être mis sur l'éducation et la nourriture, parce que l'Église remplit cette fonction par le moyen de la parole. Le moyen de grâce, c'est la parole. Et c'est en tant que dispensatrice de la parole de Dieu que l'Église remplit son rôle maternel. L'institution de l'Église visible, c'est une structure pour la communication de la parole. C'est pourquoi, si vous prenez la confession de foi des églises réformées au pays de France, la confession de La Rochelle, comme on l'appelle, au XVIe siècle, vous apercevez que ce qui est dit de l'Église, pratiquement, c'est que Dieu y a mis des pasteurs. La réalité de l'Église visible semble se concentrer, sinon se réduire, se concentrer sur l'existence d'un corps pastoral qui est là pour dispenser la parole de Dieu, et c'est la parole de Dieu qui communique sa grâce, qui enfante à la vie nouvelle et qui ensuite permet de grandir dans cette vie nouvelle. L'Église comme institution est définie par Calvin au premier chapitre du quatrième livre qui contient son ecclésiologie, comme une des aides extérieures que Dieu pourvoit pour nous attacher à lui-même. Et il est clair que c'est par la transmission de la parole qu'elle accomplit cette mission. Cet accent sur la parole, avec toutes les notes exclusives qui s'y rattachent, représente la première différence avec la notion catholique de l'institution ecclésiastique. Là où dans l'Église catholique, vous avez plusieurs niveaux, vous avez bien sûr la parole aussi, mais vous avez les sacrements comme assez distincts de la parole, avec cette capacité de causalité au-delà de la signification, vous avez aussi tout l'aspect de gouvernement, les prérogatives, les tribunaux du pape, etc. Dans le modèle réformé, l'institution est concentrée sur la parole. Puis la deuxième et énorme différence, c'est que bien que instituée par Dieu, c'est Dieu qui l'a voulu, cette Église n'est pas considérée comme divine. Elle est divine dans son origine, mais elle n'a pas une nature divine ou une quasi-nature divine comme l'institution romaine croit avoir. C'est une institution qui reste pauvrement humaine, Calvin disait, ma pauvrette église, faillible. Donc elle n'a pas du tout les prérogatives de pouvoir, avec l'infaillibilité en son sommet, comme l'église catholique, en vertu de sa prétendue divinité, croit détenir. Cette église visible un rôle important, et au cours de sa vie, Calvin a été porté à insister toujours davantage sur l'importance de l'Église visible, mais cependant, profondément, qu'elle soit spirituellement défigurée, elle est toujours à réformer. C'est une Église réformée, mais semper reformanda, c'est-à-dire on l'atteint toujours à réformer. Voilà la deuxième énorme différence. C'est une aide extérieure dont Dieu se sert, mais ça n'a pas du tout la continuation de l'incarnation. Donc vous n'avez pas du tout le même schéma à cet égard que du côté catholique. Et ce qui donne leur assurance aux théologiens du modèle réformé, c'est qu'il s'agit de la structure mise en place assez clairement, d'après la Bible, pour l'Ancienne Alliance. Dans l'Ancien Testament, c'est bien ça. Il y a les vrais fidèles, dont Dieu a changé le cœur, circoncis le cœur, qui constituent le reste, dans le langage des prophètes, les 7000 qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal, ceux dont le cœur est au Seigneur, ils sont le véritable Israël, mais ils sont invisibles en tant que tels. Dieu seul les connaît. Et il y a l'Israël empirique, comme on dit parfois, visible, national, avec ses structures, ses instances de gouvernement. Il correspond à l'Église visible. Et d'ailleurs, Calvin n'hésite pas à employer le mot Église. Il lit l'Église au temps d'Ézéchias. Et c'est justement le modèle de l'Ancien Testament qui le conduit à dire, il ne faut pas confondre Église visible et Église invisible. Il y a des tas de gens qui, de manière légitime, selon Dieu, sont dans l'Église visible sans être dans l'Église invisible, comme tous ces Israélites qui n'étaient circoncis que dans la chair et qui n'étaient pas changés de cœur. C'est bien comme ça dans le plan de Dieu, oui. Vous voyez, en Israël, c'est clair. Cette Église visible, comme le montre le cas d'Israël, peut être singulièrement défigurée par l'infidélité, l'adultère spirituel, voire l'apostasie. C'est ce qui ressort clairement de l'Ancien Testament aussi. Oui. Donc il suffit de prolonger ce qui vaut clairement dans la Bible pour la situation d'avant la venue de Jésus-Christ, pour Israël, pour avoir la doctrine de l'Église visible et de l'Église invisible du modèle réformé. La continuité entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament compte tellement pour ce modèle réformé que vous avez un certain nombre de théologiens qui s'en font les promoteurs, qui n'aiment pas à parler d'Ancien et de Nouveau Testament ou d'Ancienne et de Nouvelle Alliance. Pierre Marcel, qui était donc le rédacteur en chef de la Revue Réformée pendant très longtemps, Pierre Marcel polémique dans un de ses livres contre l'appellation même Ancienne Alliance et Nouvelle Alliance. Il n'a pas l'air de se rendre compte que c'est dans le Nouveau Testament même que dans la deuxième épître aux Corinthiens ou dans l'épître aux Hébreux, nous avons ces mots mêmes, mais il polémique contre eux. Nous n'avons pas le passage d'une Ancienne Alliance à une Nouvelle Alliance, mais un changement d'administration de l'Alliance de Grâce qui a été conclu avec Abraham et qui continue tout au long. Voilà la thèse qu'il défend, la thèse principale. C'est une vision de continuité, non pas à partir de l'incarnation comme chez les catholiques, mais à partir de ce que Dieu avait institué dans l'Ancien Testament. Alors, les sacrements, eh bien, les sacrements, vous retrouvez exactement ce qui correspond à cette ecclésiologie. Les sacrements ne sont pas des causes de la grâce, car l'Église est bien trop faible, d'un rang inférieur, pour disposer de la grâce. C'est Dieu seul qui garde son entière liberté de faire grâce. Les sacrements sont des paroles visibles. Alors, comme la parole est le moyen de grâce, certes, on peut parler de moyen de grâce, si les sacrements sont des paroles. Paroles visibles, donc ils diront moyen de grâce. Mais c'est dans leur fonction de signification. Ils offrent la grâce au nom de Dieu, comme dans la prédication de la chair, et si la foi est là pour accueillir cette offre, alors Dieu, qui est fidèle à sa parole, accomplit cette offre. Il donne la grâce qui est représentée par le sacrement. Mais ce n'est pas le sacrement qui la confère. C'est Dieu en vertu de sa fidélité à ses promesses. Voilà ce qui est le schéma fondamental. Alors Calvin, très habilement, a beaucoup joué cette formule pour dire les sacrements sont efficaces. Mais ce n'est pas les sacrements en eux-mêmes, il est parfaitement clair dans les explications qu'il donne, les sacrements en eux-mêmes sont une offre de la grâce. Il l'exhibe, il la démontre, mais c'est uniquement de façon spirituelle, par la démarche de foi, que la grâce est effectivement reçue et de Dieu. Elle ne passe pas par le sacrement comme par un canal. Cette image-là n'est pas du tout chez Calvin. L'idée d'un sacrement canal. Alors il faut quand même signaler qu'il y a un thème qui à mes yeux est un peu obscur, un peu flou dans cette théologie de la ligne réformée. Ils disent signe, ils disent aussi sceau. Les sceaux qui scellent. Alors scellent quoi? Le plus souvent ce sont les promesses. Le fait que Dieu ait institué ces signes visibles pour accompagner sa parole et la prolonger est considéré comme un élément qui scelle la promesse et qui peut donc nous en donner plus d'assurance. Il ne s'agit pas d'une causalité, d'une grâce particulière qui serait appliquée à la manière que les catholiques imaginent. Non, non. Mais il s'agit de quelque chose qui va en plus, malgré tout, de la fonction de signification. Calvin lui-même compare aux cérémonies, aux rites solennels qui accompagnent, par exemple, la signature des contrats. Il évoque la coutume qu'avaient les anciens lorsqu'ils concluaient la paix, par exemple, qu'ils signaient un traité d'alliance, de faire un sacrifice, de tuer une truie. Il compare lui-même à cela. Ou il compare aussi au cachet qu'on ajoute à une lettre. On cachette la lettre. Ce sont les images qu'il emploie, mais à mon avis, il n'explique pas très clairement comment cela fonctionne. Comment les sacrements jouent effectivement ce rôle. Mais c'est un élément qui se trouve dans la doctrine. Alors, quant à l'administration valide des sacrements, l'exigence concernant la foi varie. Je veux dire que selon le sacrement, et en fait, baptême ou scène, la théologie réformée ne dit pas la même chose. En ce qui concerne la scène, elle affirme en général, en tout cas chez Calvin, qu'il faut la foi, que la démarche pour venir au sacrement, démarche obligatoire, c'est celle de la foi. Quelqu'un qui ne croit pas ne doit pas être invité à participer à la scène. Il y a parfois quelques flous sur ce point. Et dans mon cours ordinaire, je cite par exemple le Cercle dans un texte qui semble avoir un peu hésité. Son intention est principalement pastorale. Il connaît des âmes inquiètes qui ne sont jamais sûres de vraiment croire. Alors, il dit, ne vous excommuniez pas vous-même, la scène est un moyen de conversion, puisque c'est la parole de Dieu qui y retentit de manière visible. Mais ce n'est quand même pas là une conception rigoureusement calviniste. Normalement, la foi est requise. Parce que l'apôtre dit clairement, examinez-vous vous-même. C'est seulement en s'examinant soi-même, en discernant le sens des éléments symboliques, ben, que l'on peut participer dignement. Donc, là, ils exigent la foi, fondamentalement. Mais ils ne l'exigent pas pour le baptême. Pour le baptême, la foi n'est pas requise pour que l'administration soit valide. Alors là encore, il y a parfois un peu de flou, mais la réponse fondamentale de Calvin et des théologiens réformés à ce propos, c'est que, certes, pour que la grâce représentée par le baptême et offerte par cette parole visible qu'est le baptême soit reçue, il faudra la foi. Les petits-enfants sont baptisés en vue d'une réception ultérieure quand ils saisiront par la foi la promesse qui leur est offerte dans le baptême. Calvin dit, pourquoi exiger que le signe suive? Il peut aussi bien précéder. Le signe qui offre la grâce correspondante leur est donné dès le plus jeune âge, et ça correspond à l'Ancien Testament. Le baptême prend la place de la circoncision. Mais c'est quand ils viennent à la foi qu'ils reçoivent la grâce, effectivement. Ça, c'est la réponse fondamentale, malgré certains passages où c'est plus flou. Troisième grande conception, le protestantisme professant voit d'abord dans l'Église le corps spirituel formé par les croyants, donc c'est l'Église invisible des réformateurs magistériels. Mais l'église visible, c'est simplement cette église invisible se rendant visible, pour autant qu'on puisse la voir, dans un lieu et dans un temps donné. L'église visible n'est pas considérée comme une institution ayant sa légitimité propre posée distinctement. Oui, monsieur. Oui, alors donc, pour le troisième modèle, l'église se définit comme le corps spirituel formé par les croyants, et c'est l'équivalent de ce que l'on a du côté réformé pour l'église invisible. Mais la différence, c'est que l'église visible, chez les professants, n'est pas une autre réalité, une institution distincte, c'est simplement l'église invisible, pour autant qu'on peut la voir. Parce que ceux qui sont membres de l'église invisible, parce qu'ils en sont membres par un lien de cœur qui ne se voit pas, ce sont quand même des gens visibles. Ce sont des hommes et des femmes. Et donc, l'église invisible est visible dans un lieu et un temps donné. L'église visible, donc, c'est simplement, en tout cas de manière idéale, l'expression visible, la manifestation visible, dans un temps et un lieu donné, de l'église invisible qui est universelle. Parce que on peut dire que c'est le noyau de l'ecclésiologie professante. Alors je dis bien dans l'idéal, si vous avez le texte, vous pouvez voir dans l'idéal, sous la restriction du temps et de l'espace. Parce qu'il faut reconnaître que cette église visible, qui est pourvue de certaines institutions, ce n'est pas une institution, mais il y a des institutions à son service, il y a des ministères qui sont organisés de par la volonté de Dieu, et il y a les sacrements même à y administrer, il y a le baptême et la scène à célébrer, on peut dire qu'il y a des aspects institutionnels. Cette église visible ne coïncide quand même pas, et pas toujours en tout cas, avec la simple expression de l'église invisible. Il peut y avoir des faux frères, des gens qui ont l'air d'en faire partie, qui sont sur le registre et qui ne sont pas de l'église invisible. Il y en a, selon l'expression de la première épître de Jean, chapitre 2, qui ne sont pas des nôtres et qui pourtant ont l'air d'en être pendant un certain temps, mais qui ne persévèrent pas et qui sortent à ce moment-là de nos rangs, et il devient manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Ce n'est pas comme dans la théologie réformée que l'église visible est une définition en quelque sorte propre et distincte de l'église invisible. C'est une imperfection dans l'expression, pourrait-on dire, parce que justement Dieu seul sonde les reins et les cœurs. On ne peut pas juger chez les humains, chez les responsables des églises, de la disposition secrète du cœur. Si quelqu'un professe, il va être admis dans l'église visible. Or, il se peut que sa profession soit une profession mensongère, peut-être simplement parce qu'il est trompé lui-même, mais qu'elle ne soit pas conforme à la vérité. Et donc, la coïncidence de l'église visible avec l'église invisible dans ce lieu et dans ce temps, c'est une limite vers laquelle la discipline de l'Église doit tendre, mais c'est dans l'idéal. Voilà pourquoi je mets cette parenthèse dans l'idéal. Alors l'Église ainsi conçue est clairement le fruit de l'action de la parole et de l'esprit. Si l'on considère l'Église visible en tout cas, on peut dire que chez les catholiques et chez les protestants réformés, l'Église visible est plutôt conçue comme préalable à l'action de la parole et de l'esprit. C'est une institution pour que la parole se déploie et qu'elle agisse, etc. Sa situation fondamentale est une situation avant. Et chez les professants, je dirais, la situation fondamentale est une situation après. La parole a agi, elle a enfanté la vie nouvelle chez plusieurs qui sont désormais liés les uns les autres comme corps spirituel du Christ, Donc l'Église est le fruit, le résultat de l'action de la parole et de l'esprit. C'est la position fondamentale. Il faut tout de suite ajouter que, après ça, comme c'est l'Église qui est envoyée en mission, qui porte la parole, elle devient à son tour un instrument. Ce n'est pas nié, mais ce n'est pas la conception fondamentale. Alors les sacrements, eh bien, dans cette perspective, les sacrements sont d'abord des moyens de manifestation, expression, confession de l'œuvre qui a déjà été opérée. Alors que, conformément à la notion d'église visible chez les catholiques ou chez les protestants, le sacrement est d'abord conçu du côté catholique ou protestant réformé comme un moyen de grâce qui véhicule la grâce, chez les professants, c'est plutôt le contraire. L'ordre est inversé, le sacrement est l'expression de la grâce qui a agi et qui se démontre dans un mouvement de réponse de l'homme que la grâce a touché envers Dieu. C'est pour ça qu'il y a aussi un élément d'engagement sur lequel nous aurons l'occasion de revenir. Mais je note, c'est mon petit B, qu'à titre secondaire et non spécifique, ce que les réformés disent, en tout cas dans leur thèse principale, peut être récupéré quand même. Dans la mesure où cette expression de la grâce fait retentir la parole de Dieu, et que la parole de Dieu est le moyen de grâce, mais il y a aussi moyen de grâce. Ce n'est pas ce qui caractérise le sacrement, et c'est pour ça que je mets la mention à titre secondaire et non spécifique. La parole de Dieu retentit d'abord dans la prédication, mais elle retentit aussi sous forme visible lorsque le baptême est administré, lorsque la scène est célébrée. Et la parole de Dieu, quand elle s'exprime, est efficace. Donc ce que disent les réformés sur la parole comme moyen de grâce et les sacrements comme parole visible moyen de grâce peut être admis. À mon avis, ça ne suffit pas à fonder la place propre des sacrements. Donc ça ne peut intervenir dans une doctrine qu'à titre second, mais je ne vois absolument aucune raison de l'exclure. Ça peut être, à mon avis, là, réintégré dans un deuxième temps. C'est ce que je suggère à cet endroit. C'est ce qui vous explique un phénomène indubitable, c'est que dans la tradition baptiste en tout cas, il y a eu des gens qui ont été très peu conscients d'une théologie des sacrements différente de celle de Calvin. Même dans les confessions de foi, la confession de foi principale des baptistes au XVIIe siècle, c'est la confession réformée de Westminster, simplement révisée, retouchée. Et sur la doctrine de la Sainte Cène en particulier, beaucoup de baptistes ont l'impression qu'ils ont simplement, purement et simplement, la doctrine réformée. Rien d'autre. Parce qu'effectivement, la doctrine réformée peut être récupérée, il n'y a pas de raison de l'exclure. À mon avis, il n'y a pas eu affinement théologique suffisant. Il y a quand même une originalité dans la construction de la doctrine des sacrements dans une lignée baptiste qui devrait se manifester davantage. C'est ce que j'essaie de promouvoir. Mais le phénomène historique indubitable de la proximité entre le calvinisme et le baptisme, par exemple, et en matière de sacrements, peut être expliqué par ce que je vous dis. Les baptistes, souvent, ont eu l'impression qu'ils prenaient la doctrine des sacrements réformés, mais qu'ils disaient, à cause de la Bible, on ne peut pas l'administrer aux petits-enfants, mais seulement à ceux qui professent leur foi, et par immersion. Et puis, voilà, ils avaient l'impression de n'avoir pas besoin d'élaborer une autre conception fondamentale du sacrement. Voilà le survol, le cours dans lequel nous nous engageons, ne va pas reprendre la discussion en détail des positions catholiques et des positions calvinistes, même si forcément, à l'occasion de certains arguments, de certains textes bibliques, il va falloir signaler les différences d'interprétation et éventuellement donner quelques arguments. Étant donné le temps dont nous disposons, je vais tenter d'élaborer de manière positive la doctrine des sacrements selon la troisième optique, puisque c'est la mienne. Mais vous serez libre de ne pas suivre, de préférer une autre des grandes voies, un autre des grands modèles, si vous préférez. Alors, en ce qui concerne le survol des données bibliques, je garde l'œil sur la montre et je vois bien qu'il ne nous reste plus que 5 minutes. Je vais faire sans doute quelques petits commentaires encore pendant les quelques minutes que j'ai, mais je voudrais surtout que vous lisiez le schéma, si vous n'avez pas fait encore, et qu'éventuellement vous posiez des questions demain en début de séance, demain matin, sans que je fasse un exposé continu sur les points que j'ai mis sous le grand 2. Je vais sauter en quelque sorte par-dessus pour aborder le point numéro 3, la leçon 3, comme il convient de demain matin. Alors, dans un premier temps, je vous laisserai la possibilité de poser des questions sur ce que je résume sous le point grand 2, sur la préface vétérotestamentaire, les rites en général dans le Nouveau Testament, et le baptême et la scène dans le Nouveau Testament. Pour l'instant, je me sers des quelques minutes qui restent pour vous donner quelques explications au-delà de ce qui est énoncé dans le texte écrit. Il me semble utile, c'est un principe de méthode, de considérer toujours l'arrière-plan de l'Ancien Testament. Rappelons-nous toujours que la Bible des premières communautés chrétiennes, c'est l'Ancien Testament. Il n'avait pas encore le Nouveau, il avait une épître, peut-être un évangile. L'Ancien Testament doit toujours nous être présent. C'est à sa lumière que les thèses du Nouveau prennent tout leur sens. Donc, même si on marque bien la différence, si on considère que la théologie réformée calviniste nivelle trop ce qui concerne les deux, il faut quand même toujours considérer les préparations vétérotestamentaires, ça veut dire de l'Ancien Testament. Alors on y découvre que c'est une habitude constante de Dieu, pourrait-on dire, de la pédagogie divine, d'associer des signes à sa parole. En tout cas depuis Noé, avec l'arc-en-ciel. Certains diraient depuis Éden, moi c'est pas mon interprétation, certains le savent déjà parmi vous qui ont lu la révélation des origines, mais certains considèrent que l'arbre de vie, l'arbre de la connaissance, c'était des sacrements. Ils sont appelés comme ça assez souvent dans la théologie réformée. Et puis alors bien sûr, il y a des signes en grand nombre, très riches systèmes rituels dans la loi de Moïse. Alors, attitude envers les rites et les signes ambivalentes. Je crois que c'est un des points les plus intéressants à étudier dans l'Ancien Testament. D'une part, il faut recourir à ces signes, ils sont obligatoires, et pourtant les prophètes prêchent contre toute confiance qui serait placée en eux. Ils soulignent que ce ne sont pas les sacrifices, pas la circoncision corporelle qui compte aux yeux de Dieu. Vous avez cette dualité, cette espèce de tiraillement, qui, je pense, est lié à la situation de préparation et préfiguration, mais qui est une donnée très importante pour tout l'Ancien Testament. Et parmi les signes et rites de l'Ancien Testament, qui sont repris, commentés dans le Nouveau, et peuvent être considérés sans doute comme préparatoires à un degré supérieur, il y a, me semble-t-il, surtout la circoncision, la Pâque, et les différentes ablutions, les bains et autres usages de l'eau à titre purificateur. Là, nous avons trois éléments qui jouent un rôle non négligeable dans l'Ancien Testament, mais qui sont repris dans le Nouveau, avec des commentaires très importants. Et bien sûr, cela joue un assez grand rôle, surtout dans la théologie réformée et dans le débat entre baptistes et réformés. Alors, dans le Nouveau Testament en général, eh bien, il y a la sobriété dont je parlais, l'absence presque totale d'intérêt rituel, un cas unique dans l'histoire des religions. avec la seule exception du baptême et de la scène, pratiquement, comme je l'ai dit ce matin. On trouve aussi, c'est très important pour la doctrine que nous avons à considérer, tout un commentaire sur l'Ancien Testament, la manière de le comprendre, sa place dans le plan de Dieu. Les rites et signes de l'Ancien Testament sont systématiquement interprétés comme des figures préparatoires, des ombres qui annonçaient le corps, la réalité qui est en Christ. Ça, c'est le passage de Colossiens 2 que j'évoque. Cette interprétation typologique, on l'appelle, de l'économie ancienne, nous l'avons aussi rencontrée dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 10. Le rocher spirituel, ça ne veut pas dire que c'était un rocher fait d'esprit. Spirituel veut dire ayant un sens typologique, ayant un sens spirituel, il représentait par avance le Christ, ce rocher. Cela veut dire, comprenez que ce rocher était un type du Christ. Et associé à cette interprétation des signes et rites de l'Ancien Testament, et le texte de Colossiens 2 est particulièrement important, il y a une polémique soutenue dans pas mal de passages, et déjà dans les paroles de Jésus, contre toute dépendance à l'égard des signes et rites extérieurs, de tout le domaine de l'extériorité. Le contraste entre le dehors et le dedans est un thème important. Et aussi chez Paul, et dans l'épître aux Hébreux, et dans la première épître de Jean, la première épître de Pierre, c'est un thème important qui est souvent négligé aujourd'hui d'ailleurs. Mais on peut le repérer à pas mal d'endroits. Pourtant, aucun dualisme gnostique ou idéaliste ne prévaut. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, alors même que le Nouveau Testament nous dit, ce qui importe c'est le cœur et il ne faut pas se confier dans les choses extérieures, il faut que le cœur soit affermi par la grâce et non pas par des aliments qui n'ont servi de rien, etc. C'est dans l'épître aux Hébreux. Alors que le Nouveau Testament nous dit cela constamment, en même temps, ce n'est pas que la matière soit méprisée, que le corps soit considéré comme mauvais. Ça, ce serait l'optique gnostique ou idéaliste. Mais le Nouveau Testament ne l'adopte pas. Et Paul peut dire aussi, le corps est pour le Seigneur et le Seigneur est pour le corps. 1 Corinthiens 6. Et donc ça aussi, ça doit être observé. Polémique contre la dépendance à l'égard de l'extérieur, mais simultanément, honneur au corps. Ce qui, je crois, nous explique qu'il y ait quand même le baptême et la scène, même s'il y a très peu de rites corporels obligatoires. Et alors, sur le baptême et la scène, les points que je mentionne sont les suivants. Il y a une préparation du baptême et de la scène dans le ministère terrestre de Jésus, avant la croix. Le baptême et la scène ne sont vraiment en opération, baptême chrétien et scène, qu'après la Pentecôte, après le complexe d'événements, croix, résurrection, ascension, Pentecôte. Mais il y a une préparation avant, qu'il est intéressant d'étudier pour bien comprendre ce qui est en cause. Deuxième point, là je signale un état disons de la science académique aujourd'hui, au cours du XXe siècle également. De nombreux exégètes attribuent à Paul une interprétation causative des sacrements, c'est-à-dire une conception de type catholique. Alors ils le font de manière diverse, il y a plusieurs écoles. Il est assez couramment admis parmi les exégètes critiques, que le premier christianisme palestinien n'était pas sacramentaliste. Mais Paul est censé avoir introduit, avec son génie théologique propre, cette conception causative du sacrement. Je pense que c'est une thèse erronée, mais je la signale. Soit parce qu'il a adopté l'analogie des religions à mystère dont je parlais ce matin, cela est attribué à Paul par certains, soit qu'il ait forgé une mystique tout à fait originale, ça c'est la thèse d'Albert Schweitzer, le prix Nobel de la paix, mais qui était un exégète du Nouveau Testament aussi, qui a forgé cette théorie. C'est une thèse que nous rencontrons aujourd'hui. Sur Jean, le johannisme, le corpus johannique, mais principalement le quatrième évangile, Alors vous rencontrez dans le champ académique les opinions les plus opposées. Vous en avez certains qui disent qu'il était opposé aux sacrements. Il combat les sacrements, c'est pour ça qu'il ne les mentionne même pas, il ne mentionne pas l'institution de la scène, le commandement du baptême. Et puis vous en avez d'autres à l'autre extrême qui voient les sacrements partout dans l'évangile de Jean, qui conçoivent l'intention principale de l'évangile de Jean comme celle d'une valorisation des sacrements. C'est en gros la lecture que Oscar Kuhlmann pouvait avoir. Donc vous avez tout un spectre d'opinions ce qui concerne l'attitude johannique sur le baptême et la scène. Voilà donc un petit schéma sur la situation présente. Donc si vous avez des questions à poser sur ce que j'ai mis sous le titre 2, la survol des données bibliques, nous pourrons commencer par là demain matin.